When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Littérature et bière glacée.
Grand Plan Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Plan Café par Hugues Robert.
Bonsoir, bienvenue au Grand Plan Café, l'émission littéraire de Grand Contrôle, plus libre et plus curieuse que jamais, avec Hugues Robert de la Librairie Caraïbes, c'est moi. La semaine dernière, nous avions reçu plusieurs membres du collectif journalistique Les Jours, et ça nous avait permis de découvrir ce à quoi peut ressembler un journalisme d'investigation obsessionnel, qui ne lâche pas l'affaire. Maintenant, nous sommes en juillet, c'est l'été, c'est la plage réelle ou la plage imaginaire, celle de Grand Contrôle, ou tout ce qui en tiendra lieu pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Ce soir, j'ambitionne de défendre les pavés. Parce que les pavés sur la plage, et non pas sous la plage, les pavés, c'est le moment ou jamais. Le pavé littéraire, c'est quelque chose qu'on hésite parfois. On se dit, oh là là, ça va prendre beaucoup de temps, et si je m'étais trompé? Donc pour éviter ce risque, je me propose de vous parler de 13 pavés qui font entre 800 et 1300 pages, qui sont particulièrement pratiques pour la plage, notamment parce qu'à la différence du petit livre que vous emmenez qui disparaît sous le sable à la moindre incartade ou quand les enfants viennent batifoler à côté de vos serviettes, l'avantage des pavés, c'est que vous ne pouvez pas les perdre. Hein, ils sont tellement gros qu'on les retrouve toujours, sans baguette de sourcier, sans rien. Ils peuvent même caler des parasols si nécessaire. Et ça ne se limite pas à la plage. Pour la randonnée, l'exploration, montagnarde, campagnarde ou urbaine, le pavé littéraire, il contribue aussi à maintenir l'équilibre des sacs à dos une fois que ça commence à se vider parce que vous mangez ou buvez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça évite à votre sac d'avoir cet air vide et d'offrir de la prise au vent. Donc le pavé littéraire a plein d'avantages, hors même de la littérature. Pour ce qui est de la littérature, on va s'y mettre tout de suite, juste après ça.
Grand Plan Café. Les coups de cœur du libraire.
Alors, on va commencer par un livre qui a une longue histoire que je ne vais pas détailler ce soir parce que sinon on va y passer toute la nuit, qui a été réédité il y a quelques années en fait par les éditions Attila, avant qu'elles ne se séparent entre le Tripode et le Nouvel Attila. C'est Le cycle des contrées de Jacques Abeille. Alors, c'est un petit peu une tricherie parce qu'effectivement, c'est 3 volumes, mais déjà chacun d'entre eux, alors au total, ça fait un peu plus de 1100 pages, mais chacun d'entre eux va allègrement dans les 400-500. C'est un univers qui est absolument phénoménal, sorti d'un peu nulle part, une saga qui est hors du temps, où l'on cultive d'emblée, et le premier tome s'appelle Les Jardins Statuaires, où l'on cultive les statues un peu comme des champignons, sublimes ou biscornus, ils sortent de terre. Suivant le talent du jardinier, la statue va être belle, bizarre, ratée. Donc ça, c'est un élément comme ça. On se dit, oh tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et dessus, à partir de cette entrée en matière, se développe toute une espèce d'immense fresque où il y a beaucoup question de barbarie. Une barbarie qui peut être parfois du côté de hordes sauvages qui menacent le royaume civilisé où tout ça se passe. Mais plus fréquemment, justement, du côté des guildes. Souvent maquignonne et assez abrutissante, où la possibilité, dans les jardins statuaires et dans l'ensemble du cycle des contrées, la possibilité de l'errance et de la poésie demeure, au fond, la véritable question. Jacques Abeille évolue, en termes d'écriture, quelque part dans un univers mystérieux entre Julien Gracq et San Antonio. Oui, c'est un grand écart qu'il réussit parfaitement à conduire, entre Ernst-Jünger et Saint-Jean-de-Perse. C'est un voyage donc tout à fait intemporel, c'est difficile de dire si c'est un passé, un présent, peut-être même un futur, et c'est vraiment somptueux, c'est une écriture rare. Le deuxième dont je vais vous parler, complètement différent, John Barth, Le courtier en tabac, 800 pages, dans la magnifique réédition qui en a été faite récemment chez Cambourakis. Le livre était épuisé depuis plusieurs années. C'est un livre du début des années 60. Alors, pour la petite histoire littéraire en 30 secondes, c'est un des livres fondateurs de ce qu'on a appelé ensuite le postmodernisme. Donc, une école littéraire à géométrie variable, absolument passionnante, ironique, extrêmement fouillé, extrêmement drôle, qui a souvent conduit à l'écriture justement d'un certain nombre de pavés et qui, dans les années 80-90, a parfois agacé les tenants d'une littérature épurée où là, les phrases sont courtes. Et le postmodernisme a eu un peu une sorte de retour de bâton, donc parfois on en dit du mal de temps en temps, et c'est à tort parce que c'est absolument passionnant. Le courtier en tabac, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre maîtresse de ce précurseur, qui offre un récit qui se passe au moment de la colonisation de l'Amérique par la couronne britannique. Si je devais simplifier à mort, je dirais que c'est une réécriture hautement hilarante et hautement sulfureuse de l'histoire de Pocahontas. Et c'est beaucoup plus de choses que ça. Dans ces 800 pages, il y a un récit donc qui est échevelé, hein, qui est baroque, qui est complètement polyphonique, qui est tragique, qui est hilarant. Alors c'est une autre histoire, c'est pas celle qu'on connaît exactement, elle est beaucoup plus authentique que celle qu'on retient de cette colonisation. C'est un festival également de romans, de cap et d'épée, d'aventures, de piraterie. Donc, il se passe des masses de choses. On est dans les bas-fonds de Londres, on est sur des bateaux, on est attaqué par des pirates, on débarque en Amérique, on se bat contre des Indiens, on fait face à des menées, des intrigues de colons pour le pouvoir entre les différentes premières colonies en fait, anglaises dans ce qui deviendra beaucoup, beaucoup plus tard les États-Unis. C'est aussi un livre qui est truffé de réflexions sociales et tout le long, quel que soit le sujet, d'un humour absolument décapant. Et c'est aussi d'une façon beaucoup moins crue, mais néanmoins assez rusée que dans le sanctuaire de Faulkner. C'est aussi une façon où on apprend à faire des choses avec des épis de maïs qui jouent un rôle historique absolument déterminant. Ça, c'est John Barthes, donc le courtier en tabac chez Cambourakis.
Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
Alors, Roberto Bolaño, 2666, c'est un ouvrage qui, pour tenir son statut de pavé, disons simplement qu'il concourt sérieusement pour le titre le plus gros de la collection Folio, avec ses 1400 pages. C'est le dernier roman de Roberto Bolaño qui était presque achevé de son vivant. Donc, Roberto Bolaño, l'auteur des Détectives Sauvages, je mentionne qu'il y a une soirée à propos de lui chez Caribe de demain soir. C'est 2666, c'est sans doute avant tout l'une des plus puissantes explorations existantes de ce que peut bien être la littérature, qui navigue comme une tempête entre les secrets des passés dictatoriaux, les poésies hermétiques, les exactions contemporaines, notamment contre les femmes de Ciudad Juárez, et d'ailleurs, ou les réclusions volontaires d'écrivains qui, à leur manière, en savent trop, voire beaucoup trop. Alors, comme souvent avec Roberto Bolaño, c'est à la fois mystérieux, c'est drôle, c'est légèrement dérangeant. Il y a un souffle qui parcourt toute l'œuvre qui est proprement extraordinaire. On se dit au départ, waouh, 1400 pages en folio, j'en ai pour des semaines. Et en fait, il y a tellement dedans de rythme, de surprise, de connexion entre des choses inattendues que ça se dévore en une après-midi de plage, disons. Après Bolaño, un autre livre cosmique qui s'appelle justement Cosmos, avec un Z à la fin, de Claro. Alors, c'est un plus petit pavé quand même, puisqu'il est dans la belle édition de Babel, chez Actes Sud, il fait 500 pages. C'est une lecture, une réinvention, une réimagination de tout ce qui peut bien se passer, se tramer, s'échafauder durant la première moitié du XXe siècle. Mais comme ouvre-boîte, comme fil conducteur, comme appui sur lequel faire levier, Claro a choisi le conte Le Magicien d'Oz, qui est paru en 1900 et qui a, on l'oublie parfois en France, parce qu'en France, on le connaît bien entendu, mais d'une manière un peu anecdotique, alors qu'il est absolument central dans la culture américaine, puisque, dit-on, c'est le deuxième ou le troisième livre le plus lu après la Bible. Et puis, on prétend parfois qu'un des livres d'Ayn Rand est le deuxième plus lu. Je crois que Le Magicien d'Oz l'est davantage. Et donc, ce Magicien d'Oz va être utilisé comme une sorte de révélateur mythologique contemporain. Alors, c'est hilarant, c'est décapant, c'est tendre, c'est méchant, c'est poétique, c'est plein d'inattendus. C'est un très grand roman qui, par moments, est dur, parce que la première moitié du XXe siècle est dure, mais qui le traite d'une manière avec un humour décalé, un humour dans lequel des petites choses deviennent grandes, des grandes choses sont renvoyées à leur statut un peu misérable. Il y a vraiment une beauté, une poésie dans Cosmos, donc qui annonce aussi des romans que Claro fera par la suite, notamment, on en avait déjà parlé ici, le magnifique Tous les diamants du ciel, dont la langue est une chose rarissime. Donc ça, c'est le Cosmos de Claro chez Babel en Actes Sud. Le cinquième roman dont on va parler ce soir, c'est un roman de 550 pages seulement, hein, en édition Point chez Seuil, qui s'appelle Mantra, de Rodrigo Fresán. Alors Rodrigo Fresán, c'est un Argentin qui est auteur de romans et de nouvelles, avec quelques particularités, disons, amusantes. D'une part, il a, quel que soit le thème ou le thème apparent de ses romans ou de ses nouvelles, il a des sortes de points fixes, d'endroits, qui reviennent sous différentes formes dans ses différents textes, et notamment une ville absolument mythique qui s'appelle Canciones Tristes en espagnol, mais qui s'appelle Chansons Tristes en français, et qui s'appelle Sad Songs en anglais. Je crois qu'il y a même une version allemande qui existe à un moment ou un autre dans son œuvre. Et l'autre particularité qu'a Rodrigo Fresán, c'est que c'est quelqu'un qui a baigné toute sa jeunesse dans la science-fiction latino-américaine, mais aussi les masses de traduction de l'anglais, en fait, et qui maîtrise tout ça comme peu de gens. Et il utilise ce matériau pour faire des romans qui ne sont pas de la science-fiction du tout, qui sont tout autre chose, qui sont des romans très décalés. Et Mantra, c'est au fond un conte fou, hein, un conte qui fait donc 550 pages, hein, qui crée un tourbillon historique et imaginaire d'une ville de Mexico, Mexico City, une ville tentaculaire, ville ramifiée, ville invraisemblable et ville cruellement réaliste, et qui englobe dans cette histoire de Mexico au XXe siècle, quasiment le monde, ou presque. Et Rodrigo Fresán a une écriture qui est enjouée, qui convoque des masses de choses de culture savante et de culture populaire, qui les mélange joyeusement et qui en ressort quelque chose qui est proprement vertigineux.
Ground Control, le direct.
Alors quelque chose de très différent ensuite, puisque c'est un Allemand qui a écrit dans l'entre-deux-guerres mondiales, et puis un peu après la Deuxième Guerre mondiale, Hans-Henny Jahn. Et le pavé dont je souhaitais vous parler, c'est en fait une petite tricherie, une petite astuce. C'est un livre qui s'appelle « Les cahiers » de Gustav Agnès Horn, après qu'il eut atteint 49 ans. Ouais, c'est un titre déjà un peu conséquent. C'est deux tomes qui totalisent 1400 pages chez José Corti. C'est en fait la suite d'un petit bouquin de 130 pages, paru également chez José Corti en français, qui s'appelle « Le navire de bois ». Et le navire de bois raconte l'histoire d'une croisière un peu mystérieuse dans laquelle se sont embarqués, donc sur un navire avec son équipage et tout, un père, sa fille, un passager clandestin dont on ne saura pas grand-chose. Et il arrive des choses que je ne vais certainement pas vous raconter en fait à cette traversée, enfin une croisière. Et à la fin du navire de bois, on pense qu'on a compris ou deviné ou saisi ce qui s'est passé donc, pendant ce très court roman. Et Hans-Henny Jahn donc, consacre les 1400 pages des cahiers de Gustav Agnès Horn, après qu'il eut atteint 49 ans, à nous expliquer que pas du tout, on n'a absolument rien compris à ce qui s'est passé. Et par les témoignages qui sont rassemblés dans ces cahiers, nous explique donc en 10 fois la taille du projet original ce qu'il s'est réellement passé. Alors c'est quelque chose qui est assez fou, hein. On part de cette croisière dramatique et puis 20 ans après les faits, on reconstruit entièrement une vision du monde qu'on trouvera cohérente, qu'on trouvera peut-être pas cohérente, mais en tout cas il y a un exercice d'une beauté et d'une intelligence qui est proprement hallucinante. On va poursuivre avec un Anglais, B.S. Johnson. B.S. Johnson, dont une magnifique biographie a été écrite par Jonathan Coe. B.S. Johnson, il a écrit de nombreux livres qui sont tous chez l'éditeur Kidam, qui sont tous à lire. Il y en a un donc, qui est sans doute son plus gros, c'est pour ça qu'il figure dans cette petite incursion du côté des pavés, qui n'a pas de pagination. Donc c'est difficile de dire combien il y a de pages, parce que ce roman, c'est un coffret dans lequel il y a des centaines de feuillets indépendants qui attendent votre lecture, dans l'ordre que vous choisirez. Les seuls imposés, c'est le premier feuillet et le dernier feuillet. Ça, c'est les points fixes. Les autres, il y en a plus de 400, hein. Vous pouvez faire ça, vous pouvez mélanger comme un jeu de cartes et vous le lisez comme vous avez envie, vraiment, comme, ça, comme le hasard vous le propose. Donc on va beaucoup plus loin que le concept de Marelle, hein, de Julio Cortázar, dans lequel l'auteur proposait en fait de différents ordres en fait, pour enchaîner ses paragraphes. Mais c'est lui qui les proposait. Là, c'est l'aléa total est non seulement admissible, mais recommandé. Ce qu'il s'agit à travers ces fragments, donc, c'est de reconstituer une mémoire brisée, une mémoire disjointe et une mémoire inconsolable, celle d'un ami en fait, donc de l'auteur qui a été emporté par le cancer. Ça pourrait paraître très triste, hein, ça l'est, et en même temps, ce jeu en fait, avec les anecdotes, les événements, la façon dont ils s'enchaînent ou non, la façon dont le temps en fait, a produit des effets, où il y a des télescopages inattendus par définition, puisque aucune lectrice, aucun lecteur ne lira exactement le même livre à partir du moment où le paquet a été correctement mélangé. On pourrait dire, ouais, c'est un gimmick littéraire, ça ne sert pas à grand-chose. Non, croyez-moi, ça donne une lecture vraiment rarissime. On va poursuivre du côté de la Grèce, alors avec une figure qui est l'un des auteurs les plus connus de la Grèce du XXe siècle, plutôt du début, enfin de la première moitié du XXe siècle, qui est Nikos Kazantzakis. Et on va parler d'Alexis Zorba. Alexis Zorba, on croit souvent le connaître parce qu'il y a eu le film, bien entendu, le film avec la danse de Zorba, effectué par Anthony Quinn. Les 400 pages donc, de la récente retraduction et réédition chez Cambourakis permettent de découvrir l'ampleur et la puissance de ce qui se cache derrière justement ce film, ce roman qui est vraiment... une sorte, non pas d'apologie, mais de mise en scène, hein, du rire charnel, comme un remède souverain aux aléas de l'existence. Donc dans la Grèce des années 1920, c'est un chef-d'œuvre d'humour et d'intelligence qui est légèrement grinçant par moments, mais où les grincements sont emportés par une espèce d'enthousiasme, en fait, donc par Alexis Zorba et par son compagnon et ami. Et c'est peut-être dans ce roman de Kazantzakis donc, qu'on saisit avec le plus de finesse certaines des choses qui font de la Grèce celle que chantait à peu près à la même époque, enfin un peu plus tard, Henry Miller dans Le Colosse de Maroussi, par exemple, une figure qui, quoi qu'il en soit et quelles que soient les souffrances qui peuvent se produire, résiste en fait à beaucoup de choses et continue à être cette espèce de creuset d'une culture qui n'est pas seulement la culture de la Grèce classique, bien entendu. Et on va rester quelques instants en compagnie de Nikos Kazantzakis grâce à une bande-son, évidemment, très, très connue. We'll be right back.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Voilà, avec un peu de sirtaki, c'est tout de suite beaucoup plus concret l'été. Donc après la Grèce, on va aller dans un endroit complètement différent grâce à Patrick O'Brien. Alors Patrick O'Brien, un Anglo-Irlandais qui a vécu une très grande partie de sa vie en fait en France, dans le sud de la France, qui a écrit notamment une superbe biographie de Pablo Picasso, mais qui est avant tout connu pour les aventures de Jack O'Brien. Alors en tant que pavé, c'est un peu une tricherie, puisqu'il a écrit 21 romans sur Jack O'Brien. Moi, je vous propose d'emmener avec vous le premier tome de l'édition Omnibus, donc 1300 pages, qui regroupe les quatre premiers de ces romans. Alors, Jack O'Brien, donc capitaine anglais de marine, de la Navy, de la Royal Navy, et son ami savant et un peu espion aussi, Stephen Maturin. Alors, ils ont été immortalisés à l'écran en 2003 avec de redoutables interprétations de Russell Crowe et de Paul Bettany. Patrick O'Brien, donc pour décrire, raconter tout ça, donc c'est du récit d'aventure. C'est fait avec une précision qui est hors du commun. Il y a beaucoup de ruses narratives. C'est pas du tout le truc linéaire où on sait exactement ce qui va se passer. Non, non, il y a vraiment des vrais rebondissements. C'est dans la grande tradition du roman d'aventure. Mais c'est fait avec un humour tout particulier pour à la fois décrire de l'intérieur comment fonctionne effectivement une marine à voile de guerre à l'époque des guerres napoléoniennes, puisque ça se passe pendant toutes les guerres napoléoniennes. Mais il y a une humanité tout à fait poignante qui se dégage en fait de ces romans, qui en fait donc à la fois l'une des plus belles fresques maritimes et peut-être l'un des meilleurs romans historiques jamais écrits. Sur l'époque des guerres napoléoniennes et sur d'autres époques. Voilà, donc c'est Patrick O'Brien, Les aventures de Jack O'Brien en omnibus. Alors, le dixième roman dont on va parler ce soir, il est rarement considéré comme un seul roman, et pourtant c'est un roman unique. Voilà, c'est une mission littéraire, on en est déjà à la 14e édition, donc finalement c'est peut-être le bon moment pour parler de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et pour vous proposer une lecture inhabituelle, c'est surtout pas de lire, comme on le dit parfois, les 7 tomes à raison de un tous les 2 ans. Non, prenez l'édition Carto de Gallimard, 2400 pages, emmenez-la avec vous. Ça vous prendra le temps que ça prendra, mais vous allez lire et découvrir que La recherche du temps perdu, c'est un grand roman unique, c'est un thriller absolument époustouflant où Marcel Proust dépose des choses apparemment anodine à la page 100, pour que ça serve à la page 1800, 6 tomes plus tard, et qui fait ça non pas une fois ou deux fois, mais sans arrêt. Or, si vous les lisez de façon fragmentée, bah, vous oubliez en fait ces détails, et je pense que vous ratez une partie de ce qui fait la joie de La recherche du temps perdu. Alors, La recherche du temps perdu, on sait bien entendu que c'est une fresque psychologique incroyable. Comme le disait Gérard Genette, ce qui renforce l'aspect thriller d'ailleurs, c'est finalement 2400 pages pour savoir comment et pourquoi le petit Marcel va devenir écrivain. Un sujet qui peut sembler ténu, en dehors de la décadence d'une classe sociale et de la perte de pouvoir social et symbolique de la noblesse, de ce qu'il en restait, noblesse évidemment royale, mais également noblesse d'empire. Au-delà de tout ça, ce qui est incroyable, c'est évidemment l'exploration psychologique, la mobilisation par Marcel Proust de savoir, de compétences, de documentation, bien avant qu'on parle de documentation, d'impression, une étude de mœurs d'une finesse exceptionnelle, mais c'est vraiment ce côté roman à suspense qui est très étonnant et qui, je pense, n'est pas celui qu'on souligne le plus en parlant de La recherche du temps perdu, et c'est un tort. Parce qu'effectivement, ça vous fera le même usage qu'un gros roman d'espionnage à la plage. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut emmener. Et ça, c'est notre dixième donc, conseil ce soir sur les pavés sur la plage.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Alors, pour compléter et pour enchaîner derrière Marcel Proust, on va prendre cette fois ce qui est peut-être un vrai thriller, mais c'est quelque chose d'un peu différent. C'est La femme qui avait perdu son âme de Bob Chakoshis. C'est chez Gallmeister, c'est 800 pages, c'est un thriller d'espionnage, mais c'est un thriller littéraire d'espionnage, il est extrêmement bien écrit, c'est une aventure, un thriller, dont le personnage principal est celui qui donne son titre en fait, au roman, donc la femme qui avait perdu son âme. On a son enfance, son adolescence, son âge adulte, sa famille, ce que faisait son père, ce qu'il fait. On se balade entre Istanbul, les États-Unis, enfin Istanbul dans les années 60, les États-Unis un peu tout le temps, et Haïti de nos jours ou presque. C'est une vision géopolitique des 60 dernières années qui est à la fois cynique, cruelle, tendre, intelligente, toujours à hauteur d'hommes et de femmes, d'avidité pas mal, de mégalomanie aussi beaucoup, avec un très très beau nuage d'humour sombre et décalé en prime autour de tout ça. C'est peut-être une des plus belles révélations que j'ai eues ces dernières années. Donc c'est « La femme qui avait perdu son âme » de Bob Chakoshis chez Gelmeister. Ensuite, un autre Américain, William T. Vollman. Alors William T. Vollman, c'est un personnage un peu à part dans la littérature américaine. C'est un grand journaliste d'investigation qui a mené des enquêtes dans pas mal d'endroits dans le monde, aux États-Unis également. C'est aussi le dépositaire et le metteur en œuvre d'un projet complètement fou qui s'appelle Les Sept Rêves, qui sont des romans dont je ne vais pas parler là, mais qui sont des romans qui mettent en scène, qui inventent, qui proposent en fait de réécrire une mythologie du continent nord-américain en sept étapes qui expliquent pourquoi l'Amérique du Nord est ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça commence, alors sur les sept, il y en a deux de toute façon qui ne sont pas encore écrits par William T. Vollman, et ce n'est pas une question d'ordre, ce n'est pas le 6 et 7 qui ne sont pas écrits, c'est le 2 et le 5 je crois. Ils sont traduits en français, il n'y en a que deux qui sont traduits en français pour l'instant, le numéro 1 et le numéro 6. Donc ça commence avec une réécriture des sagas norvégiennes et islandaises en fait sur le contact entre les Vikings et l'Amérique du Nord, et puis ça finit donc pour l'instant celui qui a écrit les fusils sur le rapport en fait des Nord-Américains, aussi bien américains que canadiens, à l'Arctique et au peuple premier, sujet effectivement dont on sait à quel point il ressort dans l'actualité ces dernières années. Mais le William Vollman dont je vais vous parler ce soir, c'est un tout autre roman. C'est Central Europe. Central Europe, c'est 1300 pages, donc chez Babel, en Actes Sud. Et l'auteur nous offre là, autour du choc qui domine le XXe siècle en Europe, entre Allemagne et Russie, un roman historique qui est foisonnant, qui est truffé de feux d'artifice langagier et narratif, dans lequel les états-majors militaires prussiens, les cellules communistes, les cinéastes du réel, les espions de tous bords, les économistes, s'inclinent in fine devant une grande figure, Shostakovich, musicien, compositeur, véritable fil conducteur d'une lecture qui est à la fois malicieuse et grandiose de l'histoire contemporaine. C'est un régal, Central Europe. C'est ambitieux, c'est 1300 pages, ça se lit vite. Voilà le 12e que vous pourriez emporter. Et pour finir ce soir, donc, complètement autre chose, Gene Wolfe, Soldat des Brumes. Alors, Soldat des Brumes, les deux volumes de l'intégrale qui ont été publiés chez Lune d'encre, chez De Noël, avec 1200 pages, ça vous permettra de découvrir l'un des plus beaux textes qui évoluent à la charnière des genres littéraires. Ça s'appuie sur les mythologies grecques et égyptiennes, et ça vous propose d'accompagner Latro. Latro, c'est un soldat qui se réveille un beau matin en Grèce sur les restes d'un champ de bataille, où il a donc vraisemblablement combattu la veille. Il est amnésique au quotidien, ce qu'on appelle l'amnésie entérograde. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent de l'enquête sur la mort d'Émilie Brunet chez Antoine Bellot, c'est le même souci, en fait. C'est que chaque matin, il ne se souvient pas ce qui s'est passé la veille. Donc, il commence, en fait, à écrire un journal pour savoir un peu ce qui se passe. Et ce journal, c'est le roman que vous tenez entre les mains. Avec un petit détail supplémentaire qui apparaît dès la page 5, donc je ne vais pas vous faire un spoiler, c'est que en plus de son amnésie entérograde, Latro a une autre caractéristique, c'est qu'il voit évoluer comme ça, autour de lui, dans la campagne, à l'occasion, des gens qu'il est le seul à voir. Et en fait, ce sont les dieux, puisque les dieux grecs, on le sait bien, sont présents en fait, parmi nous, simplement on ne les voit pas. Et lui, il les voit, il parle avec eux, il ne sait pas toujours que ce sont des dieux, il dit juste, tiens, l'homme avec une canne, ou bien l'homme avec des feuilles de vigne dans les cheveux. Il lui arrive donc, alors c'est une aventure qui nous emmène dans toute la Grèce, la Turquie, et une bonne partie de la Méditerranée, et l'Égypte, de l'Antiquité. C'est vraiment un périple méditerranéen qui reconstruit au niveau d'un homme et de quelques-uns de ses compagnons ou compagnes de route une gigantesque vision en fait, de l'Antiquité, de la façon dont ça interagissait. C'est passionnant, c'est drôle, c'est fantastique, si on y tient, puisque effectivement les dieux... qui se balade au milieu des humains, c'est pas quelque chose de consacré. Mais en tout cas, c'est un très très beau roman. Il y en a d'autres de Gene Wolfe qui sont très beaux également. C'est sans doute celui qui est le plus pratique pour la plage. Voilà, et donc ça nous fait 13 romans. Vous n'êtes pas obligé d'emmener les 13, hein, mais en tout cas au moins un pavé pour la plage. Et c'est comme ça qu'on va conclure ce soir.
Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.